au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, notre invitée est aujourd'hui Florence Delay, traductrice, romancière, essayiste, dramaturge. Florence Delay qui a été reçue à l'Académie française le 15 novembre 2001 et dont je rappelle qu'elle a fait l'objet sur Canal Académie d'un portrait dans la série L'Essentiel. Florence Delay qui vient de publier chez Gallimard un ouvrage intitulé « Mes cendriers », une sorte d'autoportrait à partir des cendriers qui l'ont accompagnée et qui l'accompagnent dans sa vie. Une réflexion aux filles sur le temps qui passe, le souvenir de ceux et celles qui l'ont marqué et qui ne sont plus là, et la tension du vieillissement dans l'ombre grandissante de la mort. C'est en apparence un tout petit livre, 123 pages de texte seulement, mais c'est en réalité une fête de l'intelligence, de la culture, de la liberté d'esprit et du cœur. Florence Delay, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. On le découvre à travers ce livre, entre vous et la cigarette, s'est établi un lien quasi viscéral. Vous êtes, dites-vous, la productrice des cendres. On a un peu l'impression avec vous que la cigarette devient quelque chose de vivant.
Mais je crois que la grâce du geste, de la main qui tient une cigarette, on ne peut pas l'oublier. La cigarette est le prolongement, souvent de la main, donc du bras. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'on peut chérir certaines photos d'écrivains ou d'hommes ou d'acteurs qui ont cette petite forme au bout de la main. Et je sais qu'elle est très mal vue. Je pense que c'est très bien qu'elle soit très mal vue. Mais elle a existé et elle existe encore.
Oui, vous parlez d'ailleurs d'un rituel. Hein. Vous dites la main, le briquet, la flamme, la fumée, la cendre. Enfin, c'est un rituel, en fait. C'est un parcours rituel.
C'est un rituel et dans lequel on peut voir le résumé express de notre vie.
Oui. Et ce rituel, vous pouvez y ajouter un peu de malice en fumant par exemple des cigarettes de maïs.
Parce qu'elles s'éteignent tout le
oui,
temps.
Oui, vous le dites ça.
Oui.
Et il y eut un grand poète du XXe siècle.
C'est René Char.
Vous le dites, oui, qui fumait des boyards.
Fumait des boyards.
C'était quelque chose d'assez...
D'ailleurs, je ne sais plus si elles existent, les boyards.
Ça existe, les boyards, je ne sais pas. Ce n'était pas très joli à regarder. Hein. Et alors, vous adorez la cigarette, mais vous détestez les mégots. Il y a une phrase terrible sur les mégots dans votre livre. Le mégot est une horrible créature, déchet de l'illusion, sucé, mordu, percé d'aiguille, victime des nerfs et du souci, écrasé quand vous ne voulez pas vous éteindre.
Oui, ce sont d'horribles créatures et hélas, on les trouve un peu partout aujourd'hui dans Paris. Pas seulement dans les caniveaux, dans les grillages qui entourent les arbres. Et c'est vraiment désolant car c'est très laid et je trouve qu'il faudrait qu'il y ait... quelques cendriers publics pour les gens qui fument dehors.
C'est le fruit de la loi, ça. La loi anti-tabac, c'est la résultante.
De là à envahir Paris de nos mégots, il y a un pas que je ne saurais franchir. C'est pour ça que j'ai acquis tout un portable, un cendrier portable. Et il faudrait répandre cette mode.
Alors, à propos de mégots, vous racontez une histoire assez étonnante. C'est celle de Federico Garcia Lorca.
Ah, j'aime beaucoup cette histoire. Quand je travaillais sur lui, je préparais un livre sur l'Espagne, mon Espagne hors ciel, j'ai relu la... très belle biographie que lui a consacrée son ami Marcel Auclair, qui s'appelle « Enfance et mort » de Federico Garcia Lorca. Et j'ai trouvé cette anecdote, alors que j'étais en train d'écrire, que j'avais dans la tête, parce que je l'ai depuis longtemps, mes cendriers, d'écrire un jour mes cendriers, j'ai lu une anecdote qui semblait s'y reporter, se reporter plus exactement au mégot. C'est l'époque où Federico est à la résidence d'étudiants. C'est là où il va connaître Buñuel, Dali. C'est un très grand moment pour cette cité universitaire au fond de Madrid, qui voit plein de jeunes poètes et peintres faire leur jeunesse ensemble. Et c'est la première d'une pièce de Federico qui a un très grand succès. Je crois que c'est La savetière prodigieuse qui est jouée par la grande comédienne Margarita Xirgu. Et le soir, tout le monde fait la fête, etc. Sauf Federico qui est fait une mine piteuse et qui est dans un coin, et Marcel Auclair, son ami, s'approche de lui, il dit « Mais Federico, qu'y a-t-il ? » Il dit « Mais est arrivé quelque chose d'épouvantable. Cet après-midi, j'ai jeté un mégot par terre. » Et Frau Jiménez, qui était le directeur de la résidence d'étudiants, a vu le mégot, s'est penché, l'a ramassé et l'a jeté dans un cendrier. Et il en était malade. Ça, c'est le cœur enfantin et le cœur d'or de Federico.
Vous dites que la fumée, c'est votre capitale. C'est drôle, ça.
Pardon, là, c'est ironique. Non, oui. Pas du tout. C'est-à-dire, je me moque pas gaiement, de, sans doute, de l'état de mes poumons.
Oui, ça, on y reviendra. Mais fumer libère votre imagination, vos facultés créatrices ou...
Écoutez, je pense que c'est un fantasme. Je crois qu'il y a beaucoup d'imagination autour de la fumée et autour des cigarettes. Mais je ne suis pas la seule. Depuis des années, des décennies, des siècles, il y a eu cette imagination.
Il y a un de vos amis d'ailleurs qui écrit « Tout mégo est un épilogue de pensée géniale ». Là, il pousse un peu quand même, non ?
Oui, bien sûr. Il exagère parce que c'est dans son esprit d'exagérer. Il s'agit de Ramon Gomez de la Serna. Mais j'ai été étonnée, je déménage en ce moment, donc je trouve beaucoup de papiers oubliés. Et j'ai trouvé une tragédie de Ben Jonson, contemporain de Shakespeare, où il y a un dithyrambe des vertus du tabac. Parce qu'au fond, Ben Jonson, c'est un peu comme ce que disent Canarelle au seuil du donjon de Molière, que le tabac est, enfin, le part de toutes les vertus. Et aussi, et c'est sans doute quelque chose qui m'a marqué dans mon enfance, il le lie à la politesse et au geste, encore une fois le geste, d'offrir une cigarette, d'offrir du tabac à l'autre.
Oui, d'ailleurs, il y a dans votre livre une anecdote assez exceptionnelle, c'est votre grand-mère maternelle, je crois, qui offrait aux paysans qu'elle voyait tous les ans
deux cigarettes. Deux cigarettes d'un coup.
D'un coup, oui.
Et moi, toute petite, j'ai cru qu'il fallait les fumer d'un... d'affilée. Et donc, si vous voulez, Sganarelle évoque cette espèce de... que les gens courtois aiment offrir des cigarettes. Et d'ailleurs, je me souviens très bien d'un porte-cigarette en argent que mon père avait offert à ma mère. Il y avait son prénom, Madelou, sur le porte-cigarette. Et maman ouvrait son porte-cigarette et vous le tendez. Vous l'offrez. Il y avait cette sorte de tout petit calumet de la paix.
Ce qui ramène à l'origine même
du tabac, bien
des
sûr.
Indiens. Alors, il y a la cigarette, il y a la pipe et il y a aussi le cigare. Alors, le cigare occupe une place d'autant plus forte dans votre vie maintenant que, je crois qu'on peut le dire, puisque vous le dites dans votre livre, votre compagnon est producteur de cinéma. Et...
Oui, alors, j'aimerais beaucoup que vous utilisiez parfois l'imparfait. Parce que vous dites « occupe une place », etc. En fait, « occuper », en fait, je mets au présent beaucoup de choses qui sont à l'imparfait, parce que j'aime mieux le présent que l'imparfait, de même que je préfère encore le futur. Mais oui, vous avez raison, mon compagnon, Maurice Bernard, a produit des films, et je raconte l'anecdote de Marco Ferreri, qui lui disait « si vuoi fare il produttore, devi fumare il cigarro ». Tu vois, fumer le cigare.
Mais en fait, lui en fumait peu, il en offrait surtout aux autres.
Oui.
C'est ça.
Oui.
Et pour vous, le cigare est plutôt lié à un souvenir assez exceptionnel, Hemingway ?
Oui, Hemingway, des images d'Espagnols ou de Latino-Américains. Parce qu'il y a quelque chose aussi un peu... Enfin, ce qui me fait un peu peur, moi, dans le cigare. Il y a quelque chose d'un petit peu agressif, d'un petit peu viril, macho. Enfin, je n'ai pas du tout voulu faire d'association psychologique ou psychanalytique dans ce livre, mais j'aime mieux le cigare absent, au fond, que le cigare présent.
Oui, mais enfin,
je l'aime.
Ce souvenir de ce jour où il y a eu le mano à mano...
Ça, c'était extraordinaire, oui. C'était l'été dangereux, qui est le titre d'un livre d'Hemingway, quand il a décidé de suivre, à la trace, enfin, jour après jour, l'été de Antonio Ordóñez, qui était à ce moment-là au sommet, peut-être, de son art. Et il y a eu un mano a mano, c'est-à-dire une sorte de duel entre les deux toreros les plus brillants et les plus aimés de l'époque. C'était Luis Miguel Dominguín.
Très élégant, très fin.
Très élégant, très fin. Et de l'autre côté, Ordóñez. Et donc, il était venu à Bayonne, et moi, je m'en souviens encore. Hemingway, photographié à l'aéroport, qui s'appelait encore de Parme. Sortant de l'avion avec la belle Ava Gardner. Tout ça, c'était mythique dans ma tête.
Alors, vous êtes entouré de cendriers, mais vous ne les collectionnez pas comme votre père, donc le grand psychiatre Jean Delay, collectionnait les timbres. Ce n'est pas la même chose, pas la même démarche.
Mon père n'a collectionné les timbres qu'une très courte époque, enfin, à deux époques.
Oui, mais très actif quand même.
Quand il était
très
enfant, et puis ensuite, à un moment difficile de sa vie. Oui, il a repris cette collection. Alors là, on peut parler de collection. Mais moi, mes cendriers sont là de bric et de broc, un peu par hasard, un peu hérités ou donnés ou choisis, mais il n'y a pas véritablement un...
C'est pas délibéré, quoi.
Oui, voilà, il y a du désordre là-dedans.
Il y a du désordre, mais vous avez une phrase étonnante. Donc, ces cendriers se sont trouvés là sans que je les cherche, mais si je les ai rapportés d'ailleurs, c'est qu'il m'avait fait un petit signe, désireux de rejoindre l'archipel. Ils ne sont pas là par hasard, quoi.
Ce livre me permet aussi de parler des objets. Et voilà, les cendriers sont des objets.
Bon. Mais ils sont plus que des objets pour vous, ils
oui,
ont une vie. Ils ont
mais
une...
objet inanimé, avez-vous donc une âme?
La réponse est claire pour vous, ils
oui.
ont une âme.
Mes cendriers ont une âme. Et une âme qu'ils partagent avec le temps de leur découverte, les couleurs du jour, les êtres qui s'en sont servis, ceux qui me les ont donnés. Je veux dire, ils ont à la fois une âme, un passé, une histoire, et ce sont donc des petits narrateurs. Pour moi, j'ai l'impression que c'est une fontaine narrative. Et c'est un peu aussi la façon de composer le livre, comme une fontaine narrative.
Très jaillissante. Ils ont chez vous une place attitrée. Vous êtes presque un peu maniaque là-dessus. Hein. Ils sont à un endroit et pas à un autre.
Ça dépend.
Vous parlez de vos bureaux, par exemple, vos trois bureaux.
Oui, alors sur mes bureaux, j'aime bien que ce soit les mêmes pendant une période. Quelquefois, enfin, selon les livres, ils ont changé. Parce que certains sont vraiment associés à l'Andalousie ou au Pays Basque ou à la Toscane, selon le décor, les lieux, la géographie d'un roman. Et voilà, ils sont des compagnons de livres. Et puis d'autres ne sont pas des compagnons du tout. Ils sont là, se promènent, servent des mains étrangères.
Alors il y a des cendriers, je dirais presque positifs, mais il y en a d'autres... qui vous ont marqué de façon plus dure. Deux ou trois, par exemple, celui que vous appelez l'impérial.
Oui.
C'est une histoire très triste, ça.
Non, je dirais que ce n'était pas une histoire
l'évocation,
triste.
L'évocation
c'est une,
est triste.
C'est une histoire dure. Puissante.
Oui, très puissante.
Parce
oui.
qu'elle évoque une histoire qui se passe en Inde.
À Bénarès, hein, c'est ça.
À Bénarès, oui. L'impérial étant, lui, un hôtel de Delhi, où descendait Marguerite Yourcenar, d'ailleurs. Mais ce cendrier dérobé à l'impérial me rappelle... une histoire qui se passe à Bénarès, que je ne vous raconterai pas, et qui évoque une divinité hindoue qui fait peur, effrayante.
Divinité de la misère, hein, c'est ça ?
Liée à la destruction, à la pauvreté, à la destruction.
Donc vous racontez comment, étant malade, enfin vous ne voulez pas raconter l'épisode, mais je peux quand même dire un tout petit mot. Vous êtes malade et vous entendez dans la cour un bruit de balai. Et en fait, c'est une vieille femme qui fait un geste tout à fait étonnant pendant des heures et des heures.
Qui vanne.
C'est ça. Et donc, ça évoque pour vous le souvenir de cette déesse très, très trouble de la destruction. Et en fait, vous ne mettez jamais de cendre dans ce cendrier-là.
Non. La vieille femme était en fait une image de l'extrême pauvreté. Elle devait faire partie de la caste des intouchables. Enfin, elle travaillait sans arrêt. Et voilà, le cendrier fait revenir ce petit bruit et cette misère.
Donc, c'est le respect de cette misère, en fait.
Oui.
Alors, il y a un autre cendrier dans lequel vous ne déposez jamais de cendre. Qui est lui lié vraiment à une histoire horrible. C'est celui que vous a offert le frère du torero Numéno 2.
Ah, mais ça, je ne sais même pas où il est. Ah si, pardon. Non, non, je l'ai retrouvé.
Ah, oui.
Je l'ai retrouvé en faisant les rangements. Je vous parlais d'un déménagement. Oui, oui, il est là. Il est là. Je ne l'ai pas renvoyé.
C'est une histoire
il
terrible.
Il est là, mais je ne peux pas le voir. Je ne peux pas le regarder. Il reste dans son petit carton.
Oui. Le fond du cendrier, c'est un squelette de mort.
Oui,
c'est la fête des morts des Mexicains.
C'est un cendrier de la fête des morts des Mexicains qui, eux, s'amusent à nous montrer des images macabres, puisque ce jour-là, même les boulangers font des pains en forme de squelette. Mais je vous jure que ce cendrier-là n'est pas drôle.
Et en plus, il vous a été offert dans des circonstances qui ne l'étaient pas non plus. Enfin, on peut le dire, ça.
Il l'a été de façon très généreuse,
oui,
par le frère d'un torero mort dans l'arène, oui.
Enfin, mort après. Enfin, il y a eu un très grave accident, et qui s'est suicidé après, qui était un homme merveilleux, c'était Numéno 2 dans mon conquiole, c'est ça hein.
Oui.
Ah, c'est pas un livre fleur bleue. Hein. Et il y a aussi parfois un réveil affectif brutal lié au cendrier. Je pense à ce que vous écrivez à propos d'un cendrier ayant appartenu à votre mère. Vous vous souvenez du passage ? Vous voulez que je vous le relise ? Je ne l'ai pas vraiment regardé jusqu'à ce matin où je me sens plus orpheline que d'habitude. Toc, ça vous tombe dessus comme ça ?
Oui, alors ça, je crois qu'il s'agit d'un tableau, en fait.
C'est un tableau, c'est pas un cendrier ?
Non, c'est un tableau qui est dans sa chambre. Parce que je suis en train de décrire, vous avez raison, les cendriers de sa chambre. Et je suis dans la chambre et je vois un tableau. Et je m'arrête devant ce tableau qui est décrit ensuite. Et que vous avez pris pour un cendrier, je vous félicite.
Mais enfin, il y a cette image quand même. Là, c'est pas très protecteur tout ça.
Non, c'est un livre exposé.
Oui, c'est un livre exposé. Oui, oui. Qui nous fait vraiment toucher ce qu'on a de plus grave en nous, ça c'est certain. Alors, il y en a un autre, même genre, qui évoque l'Escorial. Là non plus, c'est pas très drôle.
Non, écoutez... mon livre est quand même gay.
Oui, on y reviendra, mais parlons de cela, l'Escorial. L'Escorial.
Alors, l'Escorial,
c'est... Vous révélez quelque chose, parce que je n'avais jamais pensé à ça.
C'est un tout petit...
La forme.
Et oui, je l'ai appris grâce à mes chères études d'espagnol. L'Escorial a été bâti en forme de grille, qui est l'instrument de supplice de Saint-Laurent. Parce que lors d'une guerre contre les Français, Philippe II d'Espagne a bombardé la ville de Saint-Quentin et a détruit la cathédrale ou l'église Saint-Laurent. Et pour se faire pardonner, Philippe II a construit à l'Escorial un palais qui s'appelle Saint-Laurent, San Lorenzo de l'Escorial, et qui est en forme de grille, pour c'est rappeler...
C'est vraiment sidérant.
Et alors, donc, mon cendrier, qui était tout petit, représentait l'Escorial, mais de façon extraordinaire, tout minuscule.
Alors, à propos de ces cendriers, vous, vous dites, mes cendriers, mes muses, quand je serai cendre et poussière, qu'en adviendra-t-il? Qu'est-ce que vous souhaitez que deviennent vos cendriers dans des dizaines et des dizaines d'années après votre mort?
Mon Dieu, peut-être qu'ils habitent chez quelques êtres chers.
Parce que vous dites quelque chose d'étonnant, hein, c'est là où objets inanimés encore. En fait, vous pensez qu'ils forment une communauté, ces cendriers?
Oui.
Ils ne sont pas là l'un à côté de l'autre, ils forment...
Et ils existent en même temps que moi, en même temps que ma vie. Je veux dire, je ne leur ai pas donné... Certes, j'aurais pu adopter l'ordre chronologique, mais je suis très mauvaise dans la chronologie. J'ai tendance à... Elle bouge dans mon esprit et dans ma mémoire. Et
oui, vous vagabondez dans le temps.
Quoi. Je préfère cela, qu'elle bouge, la chronologie. Et donc, eux, j'ai décidé de les voir comme, voilà, comme des étapes, des moments, des étapes de vie, des étapes d'écriture, des étapes d'amour. Et voilà, en ce sens, je dis, ils existent ensemble.
Il y a des liens entre eux, quoi, de cette manière-là. Alors, à vous lire, on peut dire que vous êtes génétiquement une fumeuse. Vous évoquez ainsi les habitudes de toute une série de membres de votre famille. Mais alors, il y a quelque chose de très drôle, parce que ce livre était à la fois extrêmement grave et extrêmement drôle. C'est ce grand-père médecin franc-maçon, docteur Carrez. Alors, celui-là, la façon dont il parle du Christ, c'est quand même, j'ai jamais vu ça.
C'est très joli. C'était un grand-père d'une grande bonté qui a été médecin, médecin de campagne, puis ensuite en ville, à Saint-Quentin, dont je parlais tout à l'heure, justement, qui est la ville où est née ma mère. Et mon grand-père, j'ai appris, après sa disparition, était donc franc-maçon, mais j'avais été frappée petite quand je roulais dans sa voiture à côté de lui. Quand on passait près d'un calvaire, il soulevait son chapeau et disait « c'était un brave homme ».
Je ne sais pas si dans toutes les arcanes de la franc-maçonnerie...
Ce que je trouve très...
C'est beau quand même,
oui.
C'est beau. Alors votre père, lui, était un fumeur de gitane.
Oui.
Vous vous souvenez alors d'une chose étonnante. Est-ce que c'est de l'enfance que vous reste cette image? L'idée des cartouches avec la signification quasi-étymologique du mot.
Oui, c'est un mot que je n'ai pas compris tout de suite. Mais j'ai bien compris tout de suite qu'à droite de la porte qui donnait dans le bureau de mon père, il y avait un placard. Et dans ce placard, il y avait des cartouches de gitane. Et je n'étais pas sûre du mot. Parce que pour moi, cartouche, cela tirait. C'était ce qu'on mettait dans un fusil. Et comme les cartouches étaient à côté de rames de papier, j'ai mis des années, je dirais même des décennies, à essayer d'y voir clair entre rames et cartouches, cartouches et rames, oui, rames et cartouches. Oui.
Mais il y avait donc l'idée du danger, l'idée de...
Oui, du danger. Du danger d'écrire, du danger de fumer, du danger de tirer.
D'être, quoi.
Du danger d'être.
Alors, donc, le lien de famille, mais aussi le lien d'amitié. Vous racontez quelque chose d'étonnant qui se passe ici, en fait, dans cette enceinte majestueuse, on peut le dire, hein, de l'Institut. Vous parlez d'un certain trio du jeudi dont vous faites partie. Et on peut savoir de qui il s'agit?
Non.
Des trois fumeurs. Alors, il y en a un, c'est la pipe,
je
l'autre,
peux
c'est le cigare.
Simplement vous dire que nous faisons partie, tous trois, de la commission du dictionnaire qui se réunit le jeudi matin. Puisque cette commission... est récompensé de son travail par un déjeuner que nous partageons. Et la scène que vous évoquez ou que j'évoque se passe après le déjeuner.
Et dans l'un des plus beaux endroits du monde, hein, cette cour.
Ah oui, d'une grande beauté.
Vous pouvez raconter un peu ce que c'est que cette cour
parce que... C'est une cour qui n'est pas la première cour quand on entre dans l'Institut, qui est la seconde, pavée, et qui est entourée donc de bâtiments anciens et pousse le long du passage... de la première cour à la seconde, poussent deux immenses magnolias qui sont d'une grande beauté, couverts de fleurs blanches au printemps. Et au-dessus de ces magnolias, il y a un cadran solaire qui nous intime l'ordre de travailler. Parce que la vie est brève et il faut travailler beaucoup. Et chaque fois que je passe dans la cour, je regarde le cadran et je pense, ma fille, la vie est brève, il faut travailler beaucoup.
Vous êtes à l'école, quoi. Alors, à propos de ces relations donc, concernant l'Académie française, vous racontez également quelque chose de très touchant qui s'est passé à l'occasion de la mort de Maurice Thorion, dont je rappelle qu'il fut secrétaire perpétuel de l'Académie française, à propos du tabac.
Oui, Maurice Thorion était un grand fumeur, fumeur de cigares et de cigarettes. Et on m'a raconté, parce que j'étais à ses obsèques officielles, aux Invalides, où on lui a rendu les honneurs, mais je n'étais pas de ceux qui sont allés dans sa maison du sud-ouest. Et on m'a raconté que 4 amis, après la cérémonie, intime cette fois, dans son village, s'étaient installés autour de sa tombe et avaient fumé un cigare pour lui tenir compagnie.
En silence, là.
En silence.
C'est quand même un merveilleux moment, ça.
Oui, je trouvais ça très beau.
Vous évoquiez tout à l'heure ce qui se passait avec les cigarettes sur les photos à la suite de la loi anti-tabac. Alors, il y a un passage dans votre livre, là, on s'amuse beaucoup, c'est quand vous citez justement donc, tous ces excès extravagants, quoi, la poste qui enlève la cigarette des lèvres de Malraux, la Bibliothèque nationale qui enlève la cigarette des lèvres de Jean-Paul Sartre. Mais le pire, le bouquet du bouquet, si j'ose dire, c'est la RATP. Vous pouvez raconter.
Et oui, c'est une affiche étonnant, ça. De la RATP, était M. Hulot, Jacques Tati. Ils lui ont mis des ailes de moulin à vent dans la bouche à la place de sa pipe, ce qui est absolument absurde. Donc on peut se demander si on commence à censurer tous les films. Oui, toutes les photographies, tous les films. Qu'est-ce qui va rester du grand cinéma américain, par exemple?
Ouais, ouais. Alors vous citez un texte que je ne connaissais absolument pas, donc, qui tente à nous montrer que le tabac est vraiment un bouc émissaire. Hein, je peux le citer. « Pauvre tabac, rémanence du calumet indien de la paix, sur lequel s'abattent, payant pour tout le reste, comme sur l'âne des animaux malades de la peste, toutes les foudres de la science médicale, de la morale et de la loi. »
Si vous permettez...
Oui, qui a écrit ça, d'ailleurs?
Un confrère. C'est Marc Fumaroli.
Ah, c'est Marc Fumaroli.
Dans son dernier livre.
Paris-New York, oui. Retour, c'est
voilà,
ça?
Voilà, c'est ça.
Ah, c'est ça. Le tabac paye pour qui, en fait?
Je ne sais pas, mais comme on a vécu tant de siècles, sans se douter, je pense, un instant, de sa nocivité, et qu'il est devenu un tel ennemi, un tel fléau, en si peu d'années, donc on est passé...
D'un excès à l'autre, quoi.
D'un excès à l'autre, parce que, quand même, je me souviens que d'un proverbe du XVIe siècle, quand il est arrivé chez nous, grâce en particulier à notre ambassadeur Jean Nicot, notre ambassadeur qui a donné le mot nicotine. Jean Nicot envoyait à la reine Catherine de Médicis régulièrement du tabac pour guérir ses migraines. Et il existait un proverbe qui disait « l'herbe à Nicot guérit de tous les maux ». Alors on est passé de l'herbe à Nicot qui guérit de tous les maux au cancer du poumon et à ces menaces qui planent sur l'état des fumeurs. Mais l'intérêt de la loi, c'est qu'elle nous permet de sortir de la tabagie, c'est-à-dire de ne plus fumer sans nous en rendre compte, et de prendre un beaucoup plus grand plaisir à fumer, puisqu'elles sont rares.
Mais parce qu'il y a l'interdit, quoi. Souvenez du mot de Stendhal, et dommage que ça ne soit pas un péché. Enfin,
Oui, non, là je ne dirais pas parce que c'est interdit, mais c'est simplement qu'on a corrigé nos excès. Enfin, moi j'ai le sentiment que je me suis corrigé.
Mais ce que vous racontez très très bien également, c'est comment la génération de vos parents... Le tabac appartenait à tout un univers valorisant. Hein. Et vous le dites, c'est associé alors à l'impair dans le cinéma, mais plus profondément, c'est lié à la notion de réfractaire. C'est une chose qu'on perd de vue aujourd'hui, ça.
Oui, ça, c'est des images de partisans, c'est des images de la guerre d'Espagne, de la résistance, des gens qu'on voit avec la cigarette. Donc, dans mon imagination enfantine, c'était cela, c'était lié. Pas à une résistance à la société, du tout, à une vraie résistance politique et historique.
Alors, sur le plan des dangers en termes de santé, là-dessus, vous ne vous cachez pas derrière votre ombre. Hein. Vous dites « j'écoute siffler mes bronches, quand je fume en compagnie de ma mort chérie ». Au fond, vous savez bien les dangers, et vous dites « mon coffre-fort est ma cage thoracique », donc vous êtes très, très, très direct. En fait, vous savez les dangers que vous courez, mais vous l'acceptez.
C'est-à-dire que je veux les regarder en face. Je veux regarder en face. Je ne veux pas arrêter complètement de fumer, mais j'ai, en fait, beaucoup diminué mes cigarettes.
Alors, on comprend dans le livre que vous êtes accordé un quota de cigarettes par jour, c'est ça?
Oui, en fait, je me suis d'abord acheté un porte-cigarette où je mets ma ration quotidienne. Et tout le monde me dit que c'est beaucoup plus facile d'arrêter complètement que de les compter. Mais symboliquement, ça m'ennuierait de ne plus avoir un porte-cigarette dans mon sac et de ne plus jamais en griller une.
Vous en êtes à combien par jour, si ce n'est pas indiscret ?
Écoutez, très peu.
Très peu ?
7-8. Mais il paraît que c'est trop encore.
Vous êtes croyante, vous prenez des engagements de carême. Alors cette année, vous en êtes, ça marche ? Ça ne marche pas, le carême ?
Je ne vous répondrai pas.
Non, ça veut dire que oui, vous avez du
je
mal.
Je refuse de répondre.
Alors, est-ce que vous admettez qu'on vous dit « il ne faut pas fumer parce que ça a un coût exorbitant pour la société » ? Vous admettez qu'on vous dise ça ?
Parce que ça a d'abord un coût énorme pour moi-même et beaucoup d'autres choses coûtent beaucoup plus cher à la société.
Et si on vous dit alors « non, ne fumez plus parce qu'on veut faire au fond votre bonheur malgré vous » ? Alors là, je pense que... Supportez
non,
pas, là.
Non plus, écoutez, on est quand même des citoyens libres. Moi, je suis très, très consciente des privilèges que j'ai en France et j'essaye de ne pas en abuser. Mais le raisonnement de coûter cher à la société, je pense que on peut désigner des coupables beaucoup plus grands. Quant à faire mon bonheur contre moi-même, non, je préfère le choisir moi-même.
En clair, vous voulez gérer vous-même votre principe de précaution. Quoi.
Oui.
Et qu'on vous laisse en paix.
Mais je respecte beaucoup les médecins, enfin un médecin en particulier qui m'a expliqué les choses sans hargne. Et c'est grâce à lui d'ailleurs que je fume beaucoup moins et que peut-être un jour je ne fumerai plus d'ailleurs, mais j'aurai toujours des cigarettes dans mon sac.
Alors il y a des phrases particulièrement fortes dans ce texte. Vous dites par exemple « mes cendriers, ces conteneurs de rien du tout » ne me contiennent évidemment pas toutes. Le moi social, avec son brin de ridicule, leur échappe. Ils ne sont la preuve que de ma vie secrète. Ce qui veut dire que les cendriers vous renvoient à l'essentiel de vous-même, ça c'est clair.
Oui, ils me renvoient à l'amour des parents, l'amour des commencements, et à l'amour de la littérature, au fond, et à mes livres. Ils ont une fonction, au fond, amoureuse. Et c'est pour ça que je les chéris. Je les lave, je les replace. Et je suis très contente quand ils sont vides. Je ne souhaite pas du tout les remplir de façon permanente. Mais voilà, surtout que dès que je vois un mégot, je vais le jeter. Donc oui, vous avez raison, je suis devenue un peu obsessionnelle.
Vous écrivez aussi, ces cendriers peuplent les solitudes de mes bureaux, ma chambre. Solitude, le mot est lâché, derrière la cigarette, il y a donc une forme de solitude, quel que soit l'amour que vous ayez pour la vie, parce que s'il y a quelqu'un qui aime la vie, c'est bien vous. Mais il y a quand même l'aveu d'une solitude, quelque part.
J'emploie le mot « solitude » au sens du poème de Góngora, « Les solitudes ». Il y a ces très beaux vers de Lope qui dit « De mes solitudes je viens, à mes solitudes je vais. Car pour marcher avec moi, me suffisent mes pensées. De mis soledades vengo, a mis soledades voy. » Je ne sais plus exactement, mais c'est cela. Je viens d'elle, je vais à elle, car au fond, me suffisent mes pensées.
Puisque vous parlez de marché, il y a également une phrase dans le livre. Vous faites un lien entre vos cigarettes et un produit du pays qui vous est très cher, le Pays basque. Ce sont les espadrilles sans caoutchouc. Vous faites un lien entre les deux.
À cause du silence, il y a quelque chose de merveilleusement silencieux dans la cigarette. Ce n'est pas un portable. Elle ne sonne pas. Elle se fume. Quelquefois, d'ailleurs, on la donne à fumer au vent. Il la fume. Et elle m'évoquait dans son silence ces espadrilles sur lesquelles on marche à pas de loup et où personne ne vous entend. Voilà, donc à un certain moment, comme je m'étais rendu compte que les sandalières et les cendrières étaient des métiers disparus, je les ai alliés.
Vous racontez cela, oui. Et vous écrivez également « Fumant ce que je suis jusqu'à le devenir, incarnant à rebours et sans relâche mon essence, je connais la destination de l'être. » Donc là, avec une phrase comme ça, on se dit, en fumant, on découvre le plus profond de la condition humaine. Quoi. Là, on est au cœur du cœur.
C'est, si vous voulez, le thème caché du livre.
Ah oui, mais il se révèle. Il se révèle.
Qui se révèle petit à petit, mais, comment dire, qui, dans la mesure du possible, n'est pas traité avec tous les égards dus à ces choses si graves et si dramatiques.
Il y a beaucoup d'humour, oui.
Voilà, il est traité aussi un peu.
Vous renvoyez quand même à la Genèse. Hein. 3, 19, tu es poussière et tu retourneras poussière. Ça, c'est la phrase clé, quoi.
Bien sûr, autrement, je n'aurais pas choisi le mot cendre à l'intérieur de cendrier pour parler. Enfin, j'ai choisi mes cendriers à cause de la cendre.
Mais vous le dites avec beaucoup de poésie quand même, parce que vous parlez de vous. Vous savez comment vous parlez de vous ? Vous vous souvenez de ce texte ? Future colonne poudreuse aux yeux bleus. Ça donne envie de fumer, ça. C'est quelque chose comme ça. Alors, il y a aussi, à propos de notre condition humaine, quelque chose d'étonnant. Vous écrivez, pardonnez-moi d'être aussi direct, hein, mais c'est dans votre livre, donc je me permets de le citer, « Du sperme à la voie lactée, la route est si courte qu'on ne peut la délier de l'éternel ». Alors, est-ce que ça veut dire que la sexualité, pour vous, est un marchepied de l'absolu ?
Non. Je rapprochais une image, l'image qu'il y a quelque chose de laiteux et d'étoilé dans le sperme, d'où du sperme à la voie lactée. Pour moi, c'est un peu la même chose, l'un sur terre, dans le corps, et l'autre au ciel, et voilà pourquoi je les ai rapprochés.
Mais il y a du sublime dans l'air, comme dirait Souchon, non ?
Oui.
C'est ça. Alors, puisqu'on parle de sexualité, vous dites également « la cendre est chaste ». Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Elle a brûlé. Elle ne brûle plus. Elle a été purifiée. Je pense la cendre est chaste, d'abord parce que dans beaucoup de religions, elle est un signe de pénitence et de regret pour les fautes commises. Et je pense aussi, je me rappelle le passage que vous citez, c'est que je trouve indécent de mettre un cendrier à côté d'un bouquet de roses parfumées.
Voilà, c'est ça. Et après, vous parlez de Saint-François d'Assise.
Et j'avoue commettre cette indécence. Parce qu'effectivement, mettre à côté du symbole même de l'amour et de la vie, la rose, la plus belle des fleurs, un cendrier qui pourrait l'empoisonner. Bon, c'est indécent. Et je repasse à François d'Assise avec cette image de la cendre chaste parce que François, frère François, saupoudrait de cendre les plats qui lui semblaient trop savoureux par pénitence. Et ça m'a beaucoup, beaucoup frappé, ça. Ce geste d'humilité et de très contrariant. Jamais je ne ferai pareille chose.
Alors, vous écrivez également « Moi, je fume en compagnie de ma mort chérie ». Alors, est-ce que le fait de fumer vous rend la mort plus familière et vous permet en quelque sorte de l'apprivoiser ?
Pas du tout. Ce qui rend la mort familière, c'est de la regarder. De regarder la fin du chemin, de ne pas lui tourner le dos.
Là, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous ne le faites pas. Parce que tout ce livre, c'est « La mort, je te regarde en face ». Où est ta victoire ?
C'est très important pour moi parce qu'une des choses qui m'inquiète beaucoup dans notre société, c'est cette honte qu'on a d'elle. La honte du vieillissement et de la mort et le fait que finalement peu de personnes meurent chez elles et comme autrefois, entourées des siens, il n'y a plus de dernières paroles, il n'y a plus... Voilà. Et donc, comme j'aime ma vie, j'aime la vie, mais que je sais qu'elle va vers sa fin, vers le chemin. Bon, je veux regarder ma disparition, je veux regarder également ma foi en la résurrection, je veux que tout cela m'accompagne.
Oui, on y reviendra à cela. Alors vous écrivez « Le temps qui détruit le temporel laisse plus d'éternité au passé ». C'est un peu compliqué ça, ça veut dire quoi ?
Oui, c'est pas de moi.
Simone Veil,
c'est Simone Veil.
L'autre.
Oui, l'autre, pas celle qui a été élue chez la Coupe, la philosophe. Oui, je trouvais intéressant, enfin, je ne suis pas une grande lectrice de Simone Veil, je ne la connais pas complètement, mais je l'aime beaucoup, je la chéris beaucoup et je l'admire beaucoup. Je parle de notre philosophe. Et à un moment donné, elle dit que le passé est plus grand encore que l'avenir. Et en fait, elle rejoint une idée chrétienne qui est que notre éternité commence bien avant notre mort, puisqu'elle commence avec notre baptême. Le baptême, enfin, si nous croyons au baptême, nous fait enfants de Dieu, donc éternels. Donc notre éternité commence bien avant notre mort. Et donc le temps de notre vie est un petit morceau dans l'éternel, comme le dit d'ailleurs Dubélé. Si notre vie n'est qu'un moment en l'éternel, si l'an qui fait le tour chasse nos jours sans espoir de retour, si périssable est toute chose née, que faisons-nous, mon âme emprisonnée, etc.
Vous écouterez pendant des heures. Vous écrivez également « Depuis que j'ai perdu de vue mon berceau en apercevant mon tombeau, je déblaye la route en méditant sur ses soucoupes ». Quand s'est réalisé dans votre vie ce changement de perspective ? Quand vous êtes-vous...
Alors d'abord, je dois vous dire, c'est vraiment là le genre de phrase
qui vous échappe ?
Que je suis très contente d'avoir écrite.
Je vous comprends, mais il y en a plusieurs là-dedans.
Parce que j'étais ravie.
Je l'ai gardée pour la fin.
J'aimais la rime berceau-tombeau. Et puis surtout le côté dédaigneux en méditant sur ses soucoupes. Je trouvais ça, voilà. Et donc j'étais contente de la phrase en soi. Alors,
le moment.
Eh bien, le berceau, le moment où on perd de vue son berceau pour apercevoir son tombeau, eh bien, c'est le célèbre milieu de la vie.
Et le milieu de la vie ? C'est si tard que ça ?
Non.
C'est si tard que ça ? C'est pas plus tôt ?
Je crois pas. Je crois que c'est le sacro-saint moment de Dante au milieu d'un mezzo cammino della nostra vita. Je pense que c'est ça, c'est à peu près.
Alors vous dites,
on ne sait jamais au fond quel est le milieu de notre vie puisqu'on ne sait pas quand on mourra.
Dieu merci, Dieu merci.
Oui, Dieu merci.
Alors vous dites entre deux phrases, hein, ça prend une ligne. Vous souhaitez être incinéré évidemment.
Ah non.
Ah.
Pas du
Page 14.
Pas du tout.
Page 14.
Je dis que je veux attendre dans un cercueil en bois à mes dimensions
attendez, le ciel
veuille bien me rallumer.
Attendez.
Bon. Ah non, je ne veux pas du tout être... Quelqu'un d'autre que vous m'a dit ça. Non, non, je ne veux pas...
Quand le ciel, là, de me fumer m'éteindra, j'attendrai patiemment dans un cendrier en bois à mes dimensions.
Voilà, c'est le cercueil.
Ah, c'est le cercueil. Pardon. Je croyais que c'était une urne funéraire.
Non, pas du tout. C'est un beau et brave cercueil en bois.
D'accord. Mais vous écrivez quelque chose d'un peu plus inquiétant. Vous racontez que vous vous lavez au pain d'Alep, hein, qui est composé entre autres de cendres végétales. Vous ajoutez « Tant que je n'aurai pas tourné la dernière page, je me laverai au pain de cendres ». Tout à l'heure, on parlait de Saint-François d'Assise, mais là, est-ce que ça n'est pas un peu comme le silice dans les monastères là, ça fait froid dans le dos, ce que vous dites là.
Mais pas du tout. La dernière page étant celle de mes cendriers, maintenant, je peux changer de savon.
Bon, d'accord. Ça amorce ce que j'allais vous dire. C'est donc cet humour qui est permanent. Hein. Vous dites par exemple, tant de brunes et de blondes sont passées sur mes lèvres. Je pense à une phrase de votre avant-dernier livre qui était lui à la fois tout aussi profond et tout aussi chargé d'humour. Quand vous faisiez cette confidence toute simple, je dors avec une profondeur que n'égale aucune de mes pensées. Alors, est-ce que l'humour est un bouclier dès que vous parlez de vous-même ?
C'est pas un bouclier. Ça fait partie de l'être. C'est mon humeur. Vous savez que c'est magnifique. Notre humeur française est passée en Angleterre. Elle a été traduite par humour. Et l'humour a retraversé la Manche et est devenu notre humour. C'est-à-dire, en fait, l'humour et l'humeur sont très proches.
Je comprends qu'elle soit vagabonde.
Donc, j'aime l'humour. Et mon père en avait beaucoup. Les écrivains que j'aime en ont. Et je trouve que c'est une façon de... Enfin, l'humour aide la vie et aide le regard sur les choses, sur les êtres. Pourquoi se fâcher ? On peut sourire parfois des choses. Alors, j'ai essayé de garder présent cet humour à travers ce sujet qui le supporte si peu.
Oui, parce que
donc,
là,
parfois, c'était compliqué.
On va arriver à des choses qui sont encore plus dures. Mais au fond, vous pourriez prendre à votre compte le mot de Pagnol qui disait « Méfiez-vous des gens tristes, ils sont rarement sérieux ».
C'est assez drôle.
C'est assez drôle. Hein. Enfin, c'est lui, hein, c'est pas moi.
Oui, oui.
Ce qu'il y a de très fort aussi dans ce livre, c'est votre revendication, mais alors profonde, de la liberté pour les gens qui avancent en âge. Vous dites, plus on avance en âge, plus on devrait être libre. C'est une revendication.
Oui, c'est une revendication. Je trouve qu'on nous... D'abord, on nous emprisonne dans un monde où il n'y aurait que des jeunes gens. Et je pense qu'on peut réussir le vieil âge aussi bien que le jeune âge. Et j'aime penser au vieil âge dans lequel je commence à être et je trouve qu'il y a des pensées sur le vieil âge chez des peuples dits primitifs infiniment plus profondes que celles qu'on nous offre dans les pays dits civilisés.
Par exemple, ce que vous dites sur les Indiens à propos de la beauté.
Ah oui.
La prière de la 9e nuit,
oui,
c'est ça ?
Des Indiens Navajo.
Vous l'avez en tête un peu ?
Oui, c'est une...
Très
c'est,
beau, ça.
C'est magnifique. C'est la dernière nuit, c'est une cérémonie qui durait 9 jours et 9 nuits et qui se terminait par ce qu'on appelait la nuit des chants, qui montait et dont l'ultime leitmotiv était « La beauté devant moi, je marche. La beauté derrière moi, je marche. La beauté à côté de moi, je marche. La beauté tout autour de moi, je marche. Le vieil âge sur la piste de la beauté. » Voilà. Ben, écoutez, ce programme-là, pensez que justement, le vieil âge est celui où on peut marcher sur la piste de la beauté, qu'on a le temps, on n'a peut-être pas les forces, mais on peut les trouver. Si le sort n'est pas trop mauvais envers nous, envers la santé du corps, je trouve que c'est la plus belle image qui soit. Et dans ce livre, enfin, j'avais traduit avec Jacques Roubaud tous ces poèmes concernant les Indiens d'Amérique du Nord. Et je me souviens, enfin, j'ai retrouvé à la mort de ma mère l'exemplaire qu'on lui avait donné. Et elle avait marqué sur la page de garde du livre, au crayon, « Le vieil âge sur la piste de la beauté ». Elle avait pris cette phrase pour elle. et comme un programme de vie.
Oui, mais vous parlez de la force que l'on a ou que l'on n'a pas. Et à ce sujet, vous avez quand même cette phrase terrible. Hein. « Convenons-en ou n'ayons cure, tout ce qui est bon devient mauvais en vieillissant, le vin, le tabac, le soleil. À nous qui sommes le sel de la terre, il est demandé de vivre sans sel. » Dur.
Oui. Non, c'est pas commode.
Et après, vous ajoutez, et quand je dis que c'est un livre grave, même s'il est traité en permanence avec humour, mais la formule est tellement belle, « Je suis à marée basse de l'être ». Vous avez vraiment cette sensation-là ?
Non, je pense que je parlais de l'encre. Il y a diverses couleurs, j'écris au stylo. Mmh. Mais je reporte tout sur l'ordinateur, qu'on ne croit pas que je suis quand même une trop ancienne chose. Bon. Mais les premiers jets, j'ai besoin vraiment du papier et je change de couleur d'encre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'étais bien en forme, j'écrivais à l'encre noire et que la bleue apparaissait à des moments à marée basse, si vous voulez, de l'être. Voilà. Donc, il y a marée basse et il y a marée haute. Et cela jusqu'au bout. Nous sommes comme l'océan.
C'est quand même assez merveilleux. Et vous dites justement, puisqu'on parle du bout de la vie, on comprend le lien qu'il y a entre vos cendriers et votre foi. Vous dites, mes cendriers me sont la preuve de ma vie secrète, celle qui espère en secret la résurrection. Vous faites vraiment un lien entre tout ça.
Écoutez.
Parce qu'il y a une autre phrase, par exemple, vous comparez votre vie, le moment de votre vie actuelle, à la dernière étape de l'histoire du petit poussé. Et vous dites, et me voilà arrivé à la fin du compte, miracle, elle est heureuse. Donc là, c'est votre foi qui la rend heureuse, cette fin du compte.
Bien sûr, et il n'y a que la foi qui puisse rendre la fin du compte heureuse, la fin de notre histoire heureuse. Et je ne vois pas d'autre fin heureuse. Et c'est en ce sens que, oui, celle qui espère en secret la résurrection, bon, c'est cela même qui est le foyer où rallumer la joie. Autrement, c'est difficile. Il y a bien sûr d'autres formes de sagesse et d'autres formes d'accepter la condition humaine. Mais la mienne est la plus gaie.
Et vous reprenez une superbe image hein, d'un poète du XVIe siècle dont j'ignorais totalement l'existence. Il s'appelle Guy Lefèvre de la Baudrie. Vous pourriez redonner cette image parce que vous...
Il appelle... Guy Lefèvre de la Baudrie, dans un sonnet de méditation, comme il y en a eu beaucoup au XVIe siècle, dans ce moment justement du séparatisme entre protestants et catholiques, il y a eu beaucoup de ces sonnets de méditation, et il parle, il désigne Dieu comme étant le soleil du soleil qui en nos cœurs veut naître.
C'est une image superbe. Alors, vos rapports avec la foi n'ont pas été historiquement très simples quand même, parce que vous l'avez abandonné un temps.
Oui, longtemps.
Et c'est revenu, alors vous le dites, j'ai trouvé cela dans votre discours de réception de Mgr d'Agens à l'Académie française. Vous dites, c'est la joie qui m'a rapproché du christianisme, c'est-à-dire. Elle vous est tombée dessus, à la Claudel là ?
Non, elle ne m'est pas tombée dessus. C'est que, ayant été reconduite à m'intéresser à la religion, ayant été conduite à lire des textes que je ne connaissais pas, je me suis aperçue que finalement, c'était le message d'elle qui m'impressionnait le plus et que je trouvais le plus profondément original, spirituellement, de toutes les religions. J'ai été frappée par même la joie qui émane de certains mystiques, qui émane de François d'Assise, à travers les souffrances. Les souffrances m'intéressent beaucoup moins que la joie promise. Et je crois qu'on ne peut pas aimer cette religion sans penser à tous les cadeaux et à toutes les promesses qu'elle prodigue.
Alors, comme vous êtes une femme très créative, il y a dans votre texte un passage tout à fait étonnant. Vous remarquez une chose, moi personnellement, je ne l'avais jamais lu, je ne l'avais jamais entendu, mais c'est tout à fait étonnant. Quand vous parlez du temps pascal en disant que finalement, dans la foi chrétienne, les choses sont à l'envers, on commence par les cendres et on finit par le feu.
Voilà. Bon, et ça, c'est une grande beauté. Le carême commence avec le mercredi des cendres, et en fait, qui court vers la résurrection, et après... Eh bien, on va courir vers la Pentecôte et le feu qui descend sur la tête des apôtres. Et c'est très extraordinaire. Tout est à l'envers. C'est comme la réversibilité des mérites. Et voilà. Et si on regarde un peu l'année liturgique dans ce mouvement-là, on est assez impressionné et captivé.
Qui correspond assez bien à votre démarche, à vous qui avez toujours aimé la désobéissance, qui avez aimé... Vous aimez les choses qui ne sont pas dans les cadres, quoi.
Enfin, j'aime ce qui reconduit au cadre. Comment saurait-on ce qu'est l'obéissance si on ne désobéissait pas ? Comment saurait-on ce que sont les cendres si on ne la met pas en parallèle avec Pâques ?
Et la Pentecôte.
Et la Pentecôte.
Qui est l'espoir.
L'énorme richesse descendue de l'esprit et qui nous fait parler toutes les langues. Et... Alors pour un écrivain, vous imaginez.
Alors je voudrais lire pour terminer la dernière phrase de cet ouvrage, donc intitulé « Mes cendriers » et publié chez Gallimard. Une dernière phrase qui évoque les cigarettes et la perspective de la mort. Et qui traduit toute la force et la délicatesse de ce texte que l'on quitte en se sentant un peu plus fier d'être humain. Voici cette phrase. « En attendant de douce en très douce, en extrêmement douce, de légère en plus légère, en extrêmement légère, je vais comptant les jours moins légers de ma vie. » Merci Florence Delay et merci à tous et à toutes d'être avec nous.
Merci.